Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Belinda Bosuma pour les journal.
Situation sociopolitique en RDC, les États-Unis, le Canada et la Suisse rappellent des mesures importantes favorables aux élections crédibles. C'est notamment le respect par le gouvernement congolais de l'accord du 31 décembre 2016. Plus de 1000 personnes mortes de choléra ces 11 derniers mois en RDC. Révélation du programme national d'élimination du choléra. Son coordonnateur assure, un projet de riposte communautaire est en cours pour endiguer la maladie. Et puis, la criminalité bat son plein dans l'est de la RDC. Au Nord Kivu, on parle des enlèvements des personnes et autres trafics illicites. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre à Goma entre la police de la MONUSCO et les responsables locaux. Dossier à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les chefs des missions des États-Unis, du Canada et de la Suisse en RDC appellent à la stricte mise en œuvre du calendrier électoral pour des élections présidentielles crédibles et apaisées en 2018, car selon eux, l'annonce d'une date pour ces élections constitue une étape importante de la première passation des pouvoirs pacifiques et démocratiques en RDC. Dans un communiqué officiel rendu public hier, ils rappellent que d'autres mesures importantes doivent être adoptées pour mettre en place un environnement qui favorise la tenue d'élections crédible. Mimi Ngumba Mulongo.
Parmi ces mesures, les chefs des missions des États-Unis, du Canada et de la Suisse citent le respect par le gouvernement des engagements pris dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016. Ils rappellent que cet accord interdit un troisième mandat présidentiel et la modification de la Constitution. Ils insistent sur la libération de prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites fondées sur des motifs politiques, le renoncement au dédoublement du parti, le respect des libertés fondamentales et les transferts de la résolution des cas emblématiques à la CENCO. Ces diplomates estime que ces mesures sont essentielles afin de garantir un processus électoral libre, juste et pacifique en RDC. Ils appellent aussi toutes les parties concernées, pouvoir, opposition et société civile, à veiller à ce que leurs actions et leurs déclarations restent pacifiques et respectent la Constitution et l'accord du 31 décembre. Pour eux, la CENI a l'obligation de respecter son propre calendrier. Nous sommes préoccupés par le fait que la CENI se concentre sur l'utilisation d'un système de machines à voter, indique-t-il. La mise en place d'un système de ce type et de cette ampleur à l'échelle nationale pour la première fois pourrait gravement compromettre l'élection présidentielle, souligne-t-il.
Entre-temps, le vice-président de la CENI est arrivé hier à Kisangani dans la Tchopo. Norbert Basengezi va procéder au lancement de la campagne de vulgarisation du calendrier électoral global publié le 5 novembre dernier. Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui en présence des partis politiques, des organisations de la société civile, des journalistes et autres partenaires de la CENI. La ville de Kisangani a été choisie par la centrale électorale à cause, dit-elle, du succès récolté en 2005 pour une activité similaire. Cette fois-là, c'était en prévision des élections de 2006. Le vice-président de la CENI annonce par ailleurs le début du paiement de tous les litiges des agents électoraux temporaires et autres. Ici à Kinshasa, signalons l'ouverture hier du congrès extraordinaire de l'UDPS El Tshibala sous le thème « Normalisation, réconciliation et revitalisation du parti ». Les travaux ont été lancés par Alfred Ndinga, président du comité national provisoire, en présence de Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint du parti. Paul Matendo pour le reportage.
Après une minute de silence en mémoire d'Étienne Tshisekedi, président du parti décédé en février dernier en Belgique, Alfred Ndinga, président du comité national provisoire, annonce.
Le parti va ouvrir une nouvelle page de sa vie. Nous attendons qu'à l'issue de ces assises, les nouvelles structures soient rapidement mises en place et que les activités du parti reprennent normalement dans un nouvel élan.
Les délégués d'élus de PS venus de l'étranger demandent aux congressistes de mettre un terme au conflit qui déchire le parti. Léonard Mwadimvita, porte-parole de la délégation.
L'élu de PS connaît une crise sans précédent. Il faut qu'on puisse trouver des solutions. Les solutions pour remédier les erreurs d'hier. Solution pour remédier à la mégestion du parti d'hier.
Présente à ses assises, Bruno Tshibala, Premier ministre et secrétaire général adjoint de l'UDPS, appelle les troupes à s'arranger pour affronter les élections.
Ce premier congrès extraordinaire de l'UDPS doit être un congrès de réunification et de rappel de toutes les troupes des combattants du parti pour mettre l'UDPS en ordre de bataille en vue de conquérir le pouvoir aux prochaines élections.
Ce congrès va se clôturer le samedi 9 décembre.
Parlons santé à présent. Le choléra ne s'avoue pas vaincu en RDC. À ce jour, 23 provinces sur les 26 que compte le pays sont touchées par la maladie. Selon le Programme national d'élimination du choléra, les nouvelles provinces issues du Kasaï qui n'étaient pas concernées se sont ajoutées sur la liste. En croire le docteur Adike Pierre Céleste, depuis janvier jusqu'à ce jour, 49 370 cas sont enregistrés, dont 1025 décès dus au choléra. Un projet de riposte communautaire a été lancé pour endiguer la maladie. Mimi Ngumba nous en parle.
Le projet lancé pour faire face au choléra se révèle plutôt de taille. D'après Dr Adike Pierre Céleste, la stratégie adoptée actuellement met l'accent sur le rapprochement entre le personnel soignant et les malades.
Ce projet consiste à faire la sensibilisation porte à porte, de faire la chloration porte à porte et la désinfection de ménage des cas et de ses environs.
Toujours d'après lui, après une semaine de travail sur terrain à Kimpese, dans le Congo central, les résultats se révèlent encourageants.
Il y a déjà des effets de ces projets. La semaine passée, il y avait environ 55 cas dans le Congo central, mais cette semaine, nous sommes à 17. Disons qu'il y a déjà une évolution, il y a une tendance à la baisse des cas, juste par rapport au projet que nous avions lancé depuis la semaine passée.
De la même source, nous apprenons que Kimpese est la première étape d'une tournée à travers le pays, en passant par le Grand Katanga et le Grand Kasaï.
À noter que la région du Kasaï renferme la majorité des cas et des décès liés au choléra, selon le Programme national d'élimination du choléra dans son dernier rapport hebdomadaire. Et justement, pour y faire face, la population kasaïenne est invitée à appliquer les règles d'hygiène. Cet appel est du chef de section communication pour le développement à l'UNICEF RDC, Farelia Taina, est en visite de 3 jours à Kananga. Selon elle, l'UNICEF, en collaboration avec d'autres partenaires, met déjà en place un plan de prévention contre la maladie. Farelia Taina au micro de François Kadima.
Ce plan est en cours de finalisation. L'UNICEF va sans doute donner un appui technique et financier à ce plan, mais bien sûr, il y a une grande part qui doit être faite par la communauté, par les décideurs et par le gouvernement lui-même pour mener à bien ces activités de promotion de la santé. Alors l'appui qu'on donne ici, c'est aussi l'appui qui est donné au niveau central, c'est-à-dire personnellement on travaille beaucoup avec le Programme National de Communication pour la Santé, le PNCPS, pour développer des plans, essayer de mobiliser des ressources. Donc au niveau international, en cherchant des bailleurs qui sont prêts à financer cette réponse choléra, et on n'est pas tout seul. Il y a énormément de partenaires comme l'OMS, comme MSF, comme beaucoup de partenaires bilatéraux, multilatéraux, de la société civile qui essayent de mobiliser des fonds pour appuyer le gouvernement de la RDC. Le gouvernement lui-même s'est engagé aussi à appuyer un maximum la prévention.
La fraude minière se porte bien dans le Kivu. Mercredi, des éléments de la patrouille militaire ont saisi un véhicule de la société de gardiennage Graben Security, transportant une importante cargaison estimée à 800 kg des produits miniers. L'information est confirmée par le coordonnateur provincial de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, Gabriel Wamenya.
Ces responsables affirmaient que les produits miniers saisis au niveau de Afiabora provenaient du territoire de Masisi. Il était 23h lorsque le chauffeur est tombé sur une patrouille militaire. Daniel Ngoy affirme que ces produits miniers en vrac n'étaient pas encore identifiés par ses services d'expertise. En attendant l'issue de l'enquête pour déterminer la destination ainsi que les propriétés de la marchandise, les dites substances minérales, les véhicules ainsi que les policiers et les chauffeurs qui convoyaient la cargaison sont gardés à l'auditorat militaire de Goma. Contacté, les responsables de la société de gardiennage Graben Security confirment l'implication de leur véhicule dans cette prise en flagrant délit de fraude minière. Mais Alphonse Makano, chef d'axe au sein de Graben Security, précise que seul le chauffeur répondra de ses actes devant la justice, car selon lui, cette affaire n'implique pas directement son entreprise. Rappelons que la fraude minière devient une pratique courante en dépit des multiples cas de dénonciation faits par les responsables provinciaux de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière auprès des autorités compétentes. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et justement, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM, dénonce ce qu'elle qualifie de trafic d'influence de quelques responsables politiques, militaires et administratifs lors des saisies des minerais frauduleux au Nord Kivu. On cite notamment le cas d'un officier militaire actuellement en détention depuis environ 3 mois pour avoir tenté de faire passer 600 kg de coltan vers le Rwanda. Depuis, la CNLFM dit subir des pressions de certains hauts gradés de l'armée. Selon le responsable au Nord Kivu, ces pratiques limite ses actions de lutte contre la fraude minière sur terrain. Daniel Ngoy Mbayo exprime son désarroi au micro de Gabriel Ouaménia.
Cette tâche que nous avons, j'ai du mal à ne pas vous dire à ce stade qu'il n'y a pas trafic d'influence. Il y a fortement trafic d'influence politique, administrative et même technique. Vous attrapez quelqu'un qui fait la fraude fiscale, qui amène de l'argent au niveau de chez nous ici, il passe par la douane pour venir acheter des minerais de fraude. C'est son directeur qui intervient. Et ça réduit sensiblement nos efforts de terrain. Nous nous appuyons sur les hommes de troupes qui sont censés nous aider, ou nos agents qui sont sur terrain, mais ce sont ces agents-là qui sont sous protection de leur chef. J'ai des cas comme ça où je suis bloqué parce que c'est un acteur politique qui interfère, soit c'est un acteur militaire, soit c'est un acteur administratif, soit c'est un acteur technique. Toute la justice, toute la démarche est bâclée parce que son général a intervenu. Voilà la difficulté que nous avons sur ce plan-là. C'est ainsi que nous profitons pour donner un appel, demander à tout le monde de laisser les trafics d'influence pour que nos minerais puissent profiter à la République.
Au sud Kivu voisin, une mission conjointe MONUSCO-gouvernement provincial s'est rendue hier dans les territoires de Mwenga et Walungu. L'objectif de cette mission était de se rendre compte des conditions d'exploitation artisanale des minerais dans cette partie de la province. Emmanuel Elameji.
C'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU qui a conduit la délégation aux côtés du gouverneur de province. La première étape, chefferie de Luinja en territoire de Mwenga. David Gressley et Claude Nyamugabo se sont rendus dans la carrière d'exploitation artisanale d'or de Kadumwa. Plus de 5000 creuseurs artisanaux y exploitent de minerais. À leur nombre, plusieurs sont des enfants de moins de 18 ans, ils ne fréquentent pas l'école. De l'autre côté, ce sont les femmes libres, des professionnels de sexe. Les deux personnalités s'en indignent et s'engagent pour une solution urgente sur les droits des enfants et des femmes. Deuxième étape de la mission, le camp des réfugiés rwandais installé à Walungu depuis décembre 2014. 196 personnes, adultes et enfants, accueillis dans ces camps pour un transit de 3 jours, y vivent voici 3 ans. L'autorité de la MONUSCO et le gouvernement provincial du Sud Kivu se sont entretenus avec les délégués de ces réfugiés pour leur retour au Rwanda ou une éventuelle relocalisation à un autre endroit, mais rien n'a filtré de ces entretiens. Emmanuel Elamejo Akadedi, de retour de Mwenga, Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez aussi que la radio-télévision Kindu Manima a été saccagée dans la nuit de mercredi à hier jeudi. Selon le sénateur Ngongo Luowo, son promoteur, l'attaque survenue au cours de l'émission à téléphone ouvert La Voix au Peuple a été conduite par un officier supérieur de la police envoyé par le vice-premier ministre Emmanuel Chadari. Le sénateur Ngongo Luowo explique au téléphone de Richard Kamunga.
Il était 21h heure de Kinshasa lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Chadari, m'a réveillé pour me dire que à la radio TKM Kindu, on citait son nom. Je lui ai dit que j'allais vérifier. On m'a confirmé qu'une émission à téléphone ouvert où un auditeur a appelé pour dire que Chadari aurait reçu la visite du gouverneur Tutu et le sénateur Moulaïla qui lui aurait amené 250 000 dollars avec un salon Louis XIV. L'animateur a réagi professionnellement en disant non, je ne crois pas que cela soit possible. Alors, j'appelle Chadari, je lui dis, écoutez, d'après ce que j'apprends, c'est un auditeur qui a appelé et l'animateur a démenti. Chadari me dit, non, c'est un montage grossier. Moi, je suis vice-premier ministre, je vais envoyer les gens, je vais l'alerter la net. On va aller chez vous, moi, j'ai dit. Chez moi, je suis un sénateur avec humilité. Vous allez entrer chez moi à 23h sans aucun document de l'État. Je vérifie. Et les gens sont entrés chez moi, ils ont tout saccagé, ils ont volé des émetteurs radio. Télévision, je vais amener à la police.
Pour l'instant, le cabinet d'Emmanuel Chadari, contacté, n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire. À ce sujet, Journaliste en danger dénonce cette attaque qui, d'après l'ONG, a été conduite par un colonel de la police. Dans un communiqué publié hier, JET demande instamment au vice-premier ministre Chadari de se prononcer sur cette grave affaire et d'ordonner sans délai la restitution de tous les matériels de diffusion emportés par ces hommes afin de permettre à ce média de reprendre ses activités.
Actualité, Afrique Monde.
Notez tout d'abord la fin des deux semaines du quatrième dialogue pour tenter de sortir le Burundi de plus de deux ans de crise due à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Mais ce round, présenté comme le dernier et qui s'est tenu en l'absence de l'opposition en exil, a finalement accouché d'une souris, comme l'a reconnu jeudi le facilitateur dans cette crise. Entre-temps, les Palestiniens à l'unisson contre la décision des Trump sur Jérusalem. Une centaine des blessés ce jeudi lors des manifestations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. Et pour terminer, en France, après les nombreux hommages qui ont suivi la mort de Johnny Hallyday, l'heure est au préparatif de la cérémonie d'adieu, une cérémonie qui s'est vue à la hauteur du chanteur qualifié de héros national par l'Élysée. Les obsèques auront lieu samedi 9 décembre, demain donc. Adieu, oh, rapide, oh, rapide.